Le Revenant, chapitre 7. Sur une petite veilleuse d'ancienne mode, le café du matin se maintenait au chaud, sous la grande garde de Louise. Mais comme il tardait, Lucien rentrerait gelé de mauvaise humeur. Elle était prise dans ce salon morne d'une singulière angoisse. D'instinct, elle repassait mentalement toutes les phrases de Robert. Elle fit un grand geste d'insouciance. Penser de nuit, à la campagne, quand on est seul. On irait plus tard, seulement ce soir, elle appartiendrait à son époux. Précaution élémentaire, il serait stupide de continuer à se sevrer ainsi. D'ailleurs, quand elle l'admettait dans sa couche, il se contentait presque toujours maintenant de la tenir contre lui et de lui parler comme il lui parlait à un petit enfant. « Ne sois pas méchante, loulou, je t'assure. Tu es méchante, il ne faut pas être méchante avec moi. » À la fin, elle s'endormait. Il guettait son réveil et il avait les paupières rouges de quelqu'un qui a veillé, qui a pleuré. Et il plaisantait avec ses paupières rouges. Il y avait comme un sanglot dans son rire. Elle l'interrompait. « Tu n'es pas trop malheureux, mon coco. Je fais ce que je peux. » Il répondait. « Oh, il n'y a pas plus contente que ton petit Lulu. » Et il esquissait une danse pour l'amuser. Et elle pensait à autre chose, pour ne pas scruter plus avant, pour ne pas avoir toute la détresse qu'il y avait dans cette joie faible. Et tout cela parce qu'elle se refusait, parce qu'elle ne prenait plus la peine de jouer la comédie. Et cette nuit même, elle se montrerait charitable. C'était d'une prudence élémentaire et alimentaire. Il payait. Il avait quelques droits. Repu, il voyagerait plus souvent. Elle l'endormirait dans des caresses et des petites fers. Lucien ne l'interrogeait jamais sur ses obligations conjugales. Il avait la discrétion du pauvre. L'avenir leur réservait-il peut-être de bonnes surprises? La santé de Pavillon n'était pas fameuse. Et en somme, elle n'avait pas à se plaindre. Oui, elle regrettait Paris, voilà tout. La gaieté lumineuse du boulevard, ce vacarme qui la berçait, qui s'adoucissait pour elle, eût-on dit, comme le rugissement voilé d'un lion câlin. Et la boutique, si nette, si distinguée, avec ses casiers de chêne, ses comptoirs. Et soudain, la sonnette de la grille s'agita violemment, sous une poussée brusque. Louise alla jusqu'au seuil. « Eh bien, les bambins, allez, vous arrivez donc !» Une galopade sur ce gravier, et soudain, Lucien se dresse devant elle, boueux, exténué, hagard, le visage sanglant. « Seul ? Qu'y a-t-il ? Un malheur ! Un malheur ? Un grand malheur ! » Il se tordait les mains. Elle le fit entrer et ferma la porte sur lui. « Et Robert ? Oui, Robert, ah mon Dieu ! Nous avons eu une dispute à propos de toi. Nous nous sommes battus. Il est tombé. Noyé ? Oui. Oh ! » Et elle reprit d'une voix où la terreur se nuançait d'admiration. « Tu as fait ça ?» Il tomba à genoux, sanglotant. « Tu vois, j'en étais sûr. On dira que je l'ai poussé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai peur, Louise, j'ai peur. » Elle se roidit. « Alors ?» Ben, il a voulu me donner un coup de poing. Il a basculé, il est tombé. Il est tombé, mon Dieu. Un accident. Oh oui, mais personne ne voudra le croire. Il m'a déchiré la figure. Tu diras que ce sont des ronces. Je suis perdu. Mais relève-toi. On ne me touche pas. Tu es plein de sang. Écoute-moi bien, mon petit. Retourne là-bas. Là-bas ? Oui, tout de suite. Il ne faut pas qu'on sache que tu es revenu ici d'abord. Ça paraîtrait pas naturel. Tu comprends ? Ouais, ouais. Allez, retourne. Retourne là-bas. Crie. Réveille les gens. Et s'ils ne se réveillent pas, sonne à des portes. Cherche des mariniers. Tu feras comme si la chose venait d'arriver. Tu feras celui qui pleure, qui est désespéré, tu comprends? Allez, retourne là-bas. Va, va! Je n'en peux plus. Tiens, bois. Elle lui versa le café préparé pour Robert. Il le but d'un trait et gémit. Le gosier est bouillanté. File maintenant, reprit-elle. Tout ira bien. Je te promets. Un accident, bon, c'est un accident, quoi. Comme il y en a tous les dimanches. Tu as ta conscience pour toi. Va, mon petit, va, mon chéri. Un peu de courage. Et tu es au bout de tes peines. Après, tu mourras. Il y a moi comme récompense. Il y a ta loulou. Et pendant ce temps-là, je nettoierai toute cette boue que tu as apportée. Allez, va, mon amour, je t'aime, on sera heureux, allez, va, sois intelligent. Il reculait tandis qu'elle parlait, et soudain se retourna et courut. De nouveau, la sonnette de la porte retentit. Il obéissait. Louise enleva les traces de pas sur le tapis et reprit sa faction, un livre à la main qui ne tremblait pas. Tout s'arrangeait. Une nuit désagréable à passer, et la délivrance. Elle eut presque rien, pensant à cet imbécile qui s'était noyé pour avoir voulu donner un coup de poing. Elle rit même avec des larmes qui la soulagèrent. Un accident, bon, comme il s'en produit quand les boutiquiers se mêlent de faire du sport nautique. On la plaindrait, on plaindrait la veuve. Elle en serait quitte pour n'épouser Lucien que beaucoup plus tard. La boutique du Levant, elle a la caisse, lui près d'elle, son adoré. Monsieur et Madame Babet, à 2 heures du matin, la sonnette gronda. Livide, Louise parut sur le seuil, tenant haut la lampe comme tout à l'heure. « Oh, un accident! Je suis sûr qu'il y a un accident !» Nulle réponse. Des pas lourds dans le jardin. « Il est arrivé quelque chose à mon mari. Robert, tu es là, Robert ?» Et une voix rude. « Pas de bobard, la petite mère !» Vous êtes au courant, votre mari est déjà venu vous renseigner. Mais c'est faux. C'est faux. Elle a du culot, par exemple. Je l'ai vu. Et une autre voix. Moi, je les ai vus dans le bois, cet après-midi. Ils se bécotaient. Salaud. Oh, ils paieront ça. Et le groupe d'hommes se dessina au milieu duquel Deux ouvriers soutenaient Lucien défaillant. Et le type de l'enseigne, tiens-toi un peu et laisse-nous passer. Qu'on le colle sur le canapé, votre. Et Louise fit encore. Mais je jure sur ce que j'ai de plus sacré. Et elle s'évanouit. Chapitre 8. Un pauvre monsieur, bien malade que ce monsieur Benjamin Sylvain. Il arriva de nuit, se coucha et on ne le vit plus. Le petit garçon qui lui apportait sa nourriture, la femme qui faisait son ménage, ne tarissaient pas d'éloges sur son compte. Si bon, si généreux et si gai, malgré ses souffrances. Votre soleil me guérira. Calme journée, nuit paisible. C'était à croire que Robert n'avait vécu que pour cette vengeance méticuleusement préparée, jusqu'aux vêtements qu'il portait, quand il avait fait son brusque plongeon, les vêtements imperméabilisés de pêcheur à la ligne, qui peut subir des averses torrentielles sans en être dérangé, jusqu'à l'endroit où il avait disparu. Quelques brasses, et il se trouvait dans les roseaux. Oh, il avait eu du mal à se dégager de la vase. Puis, il avait rejoint la cahute abandonnée qui marquait jadis l'embarcadère d'un loueur de canots. Il y était resté jusqu'à l'aube, enveloppé dans un vaste pardessus de voyage apporté là le matin. Avec une valise, une topette de rhum, un large cachelet et un chapeau de rechange. Il avait marché dans le bois jusqu'au tramway qu'il avait pris pour regagner Paris. Ensuite, le train pris, il gagnait l'Espagne, reprenait sa fausse identité. Et s'installait avec la jouissance d'une victoire complète, dans la sécurité absolue. Chacun son tour, à lui de rire. Et il riait tout seul en se frottant les mains. Il se figurait bien que la vengeance était bonne à savourer, mais pas à ce point-là, pas au point de vous tenir lieu de compagne, de maîtresse. D'emplir un cœur comme l'eau de la mer envahit triomphalement un gouffre. Grâce à la somme liquide léguée par son père et augmentée de ses économies, il avait pu emporter 180 000 francs en or et en billets de banque. Cette somme était ignorée de tout le monde. Ainsi, l'hypothèse de sa disparition s'écoulerait vite. On s'escamote aisément quand on réfléchit à cette opération avant des mois, durant des mois. Tout accusait Barbet, même le brouillon d'une lettre que Parvillan avait laissée dans sa chambre à Paris, et où il suppliait Louise de lui revenir. Je crois, elle, capable de tout, il m'épouvante. Et la petite vendeuse, chargeur les amants, la bonne témoignerait aussi. C'était lui qui avait manigancé tout cela, lui le boutiquier timide et malingre. À l'heure actuelle, ils sont certainement arrêtés. Et il faisait le geste de tourner une clé. Clic-clac, en prison, le Beaumarle et sa catin. Et pour lui, la retraite, à tout jamais, la disparition. Ne plus voir de visage humain, ces visages de traîtrise. Il vivrait là, dans une paix de tombeau, à se délecter sans fin d'avoir eut tant de patience et d'ingéniosité. On ne rechercherait pas où il était si bien caché, où sa présence semblait naturelle aux indigènes déjà habitués. Il laisserait pousser sa barbe. Avec quelle impatience il attendait les journaux. Le garçon de l'auberge les lui apportait chaque matin. Et il fallait dissimuler, attendre le départ du petit pour se précipiter sur les feuilles. Et il lut enfin un drame mystérieux. Tout était bien. Tout se passait comme il l'avait prévu. Les complices incarcérés, les détails se précisant chaque jour. Les aveux du principal coupable sont imminents. D'accablantes dépositions chargeaient l'amant. Puis, faute de preuves, Louise fut relaxée. Instrument inconscient, disait-on, entre les mains du dangereux cousin. Et le dangereux cousin n'y couperait pas de 20 ans de travaux forcés, donjouant au bagne. Robert se le représentait, la tête rasée, en livrée infâme, traînant sous le ciel de feu. Pour Louise, elle liquiderait le magasin du Levant et tomberait dans la basse galanterie. Bientôt, la matière était épuisée. Les journaux passèrent à d'autres drames. L'assassinat de M. Paviland ne faisait plus aucun doute. Il n'y avait qu'à attendre. Et Robert attendit. Comme tous les êtres qu'absorbe une pensée unique, la solitude lui plaisait. Il lisait, il se faisait des amis, un merle, un crapaud, une être chauve qui lui avait imposé ses 3 canetons, avec des yeux. Sa barbe le changeait, de telle sorte qu'il pensait: oh, si Louise m'avait vu ainsi, elle se serait méfiée de moi. Il s'offrait des douceurs pour mieux sentir la misère de l'autre dans sa prison. Il ne peut pas fumer des cigarettes blondes, lui, ni boire de l'arsenisette ou de l'eau parfumée au sucre vanillé. Et la cigarette, l'anisette et l'eau sucrée lui paraissait meilleur. Par mesure d'hygiène, il s'astreignait à de longues promenades dans son jardin, appuyé sur les 2 cannes, et maintenant, à petits pas, par crainte d'être observé, il régla sa vie. Il se levait tard et il ne se couchait. Et il ne fermait ni la jalousie ni les rideaux. Il passait toute la matinée au lit, jouissant de la divine lumière dont l'autre était privé dans son cachot. Un jour, le garçon lui apporta une bouteille de poudreuse. « Ah, c'est la festa de la dame. Elle a dit que le vino blanco ferait beau pour Monsieur Sylvain. » Robert vida la bouteille et en éprouva une satisfaction si grande il en commanda 12, du même blanc bianco. Il attendait l'heure des repas, celle du petit verre, et il lui arriva de s'enivrer. Ivre, il rêva de Louise, un rêve absurde. Il vivait, elle et lui, dans un château somptueux. Il occupait l'aile gauche, Louise l'aile droite. Et Louise frappait à sa porte. « Tu dors, mon amour ?»« Non !» Et elle venait le rejoindre. Elle soupirait. « Oh, il fait chaud dans ton lit. J'avais si froid dans le mien. Il sentait contre lui la caresse de son corps lisse et frais, tout chatouillé d'aise. Oh, je suis si bien, si bien, c'est merveilleux! Un mot familier de Louise. Ce mot résonnait avec tant de vérité et tant de force qu'éveillé en sursaut, Robert resta hébété, ne comprenant pas sa solitude. Et il cherchait sa femme à tâtons. Dès lors, les mauvais souvenirs s'évanouirent. Dès lors, les mauvais souvenirs s'évanouirent. Bien qu'il fît tout pour les ressusciter, et les souvenirs chaleureux affluèrent. Il se défendit. Il mit cette hantise sur le compte de l'alcool, et il recourut à l'eau et au lait. Peine perdue. Il redouta le lit et passa des nuits assis sur son fauteuil. Le fantôme, pétri de désirs et de caresses, l'y accompagnait. Louise revenait. Elle ne le quittait plus. Elle était à côté de lui quand il se promenait dans le jardin. Il croyait l'entendre, elle disait « Comme c'est malin ce que tu as fait là. Tu t'es débarrassé de Lucien, mais tu t'es imaginé que tu pourrais te débarrasser de moi. Mon pauvre aimé, ma pauvre aimée, penche-toi sur ce jasmin, mais c'est mon odeur que tu respireras sur ces œillets, sur ces roses. Mon odeur encore, mon parfum. » Elle fait de tous les parfums. Aussi, je ne suis pas une femme, mais toutes les femmes désirables, réunies en un seul corps, qui est un bouquet. Oh, tu m'appelais ton bouquet, seulement tu ne savais pas au juste ce que cela signifiait. Tu le sais maintenant. Lutte, idiot. Lutte. Ferme les yeux. Tu me verras nu. Bouge-toi les oreilles, tu m'entendras. Oh, tu n'entendras pas parler, mais roucouler. Tu te souviens, mon petit bien-aimé, mon unique, mon adoré, mon tout, qui est à moi, mon petit. Mais qu'as-tu fait là? C'était mon caprice de m'amuser avec Lucien. Il fallait me passer ce caprice. Ça s'appelle pas aimer que de ne pas savoir souffrir pour celle que l'on aime. Et que m'importait, puisque je te faisais de temps en temps l'aumône de moi. Tu me voulais pour toi seul. Toi, Robert, Casimir, Jules, Pavillon, avec tes bras grêles, tes genoux cagneux, tes dents jaunes, tes oreilles évasées. Toi, un homme créé pour aller en omnibus, pour recevoir sa ration de vie et d'amour à la gamelle. Prenez votre numéro et mettez-vous à la file. Un homme voué aux vêtements confectionnés et au bonheur en série, il écoutait. Et cette voix était si impérieuse qu'il ripostait tout haut. « Mais tais-toi, tu es une fille, tais-toi, tu es une fille. » Il eut un sursaut de volonté. Il commanda des outils de jardinage et bêcha, sarcla sans trêve pour mater la bête. Il acquit une robustesse surprenante, et la bête se révolta. La hantise devint une torture de tous les instants. 8 mois s'étaient écoulés. Et au bout de ces 8 mois, il sortit, ayant la plus grande peine à garder son attitude douloureuse, à se traîner sur ses cannes. Un désir inexorable le poussait. Le lendemain, il débarquait à Paris. Il prit un bain et passa chez le coiffeur qui tailla en pointe sa barbe hirsute. Et à 6 heures, il tourna le bec de canne du magasin au Levant. Suppliant, le corps secoué de frissons, anxieux. Chapitre 9. Louise était seule, absorbée dans les calculs. Elle murmura sans lever la tête, « Vous désirez ?» Il restait immobile, chancelant un peu, comme un vagabond, mourant de soif devant la source fraîche qui l'apaisera. « Monsieur, vous désirez ?» Elle le regarda enfin, et dans un souffle, « Ah, c'est toi !» Il dit, « Oui, c'est moi, on ne craint rien, je t'expliquerai. » Elle restait immobile, les prunelles dilatées et muettes, frappées de terreur. Il reprit, « Tu ne peux pas bouger. Il faudrait fermer, cependant. Je ne veux pas que l'on me voie ici. Et puis c'est l'heure. Attends, je vais fermer. Tant pis. » Elle pensait, il va me tuer. Mais quand la devanture de fer fut abaissée et qu'il eut enlevé son chapeau et son pardessus, elle reconnut cette flamme qu'il avait dans le regard quand il la convoitait. Alors elle se jeta sur lui. « Oh, je devine, tu as voulu te venger. » Et puis la peur, la petite t'a manqué. La chérie, c'est ça. Oh, je suis sûr que c'est ça. Oh, je suis pas si coupable. Tu m'abandonnais un peu, sois juste. Et tu vis. Tu vis. C'est l'essentiel. Le reste, je m'en moque pas. Point, mal. L'autre, oh, eh bien, on en fera ce que tu voudras. J'irai te rejoindre en Amérique. Tiens, je t'ai toujours aimé. Même, bon, il m'hypnotisait, je comprends. Et puis, j'avais une telle peur de te faire de la peine. Il écouta ses explications en fouettant l'air de son... Il n'était pas venu pour entendre une défense. Il était venu parce qu'il avait besoin d'elle. « Veux-tu qu'on aille chez nous, là-haut, Robert ?» Sans répondre, il l'attira contre lui avec une telle brutalité qu'elle gémit. « Parle, dis quelque chose. Je vois bien que c'est toi, mais je ne te reconnais pas. » Tu me fais mal. Il saisit la nuque d'une main rude et colla sa bouche avidement contre la sienne, bouche désirée. Il sentit son corps qui palpitait sous son étreinte pour la première fois. Et pour la première fois, il sentit qu'il donnait à cette femme la volupté. Il en éprouvait lui-même. Si forte, si définitive, qu'il trembla de la tête aux pieds et que ses lèvres sur ses lèvres brûlantes de Louise se glacèrent. « Oh, mon chéri !» gémit-elle. Elle voulut reprendre le baiser interrompu, mais il s'y refusa. Il la tenait toujours dans ses bras comme une charpe molle et la regardait en pensant c'est pour ça, c'était pour ça. Il ne lui était plus rien, ce visage blême où l'épouvante et la joie avaient creusé des stigmates hideux. Ce visage qui était si beau dans son rêve. C'était ça l'harmonie si attendue, ça le triomphe obtenu à travers tant de misères et de larmes et de drames. Ça l'amour qui avait fait de lui un criminel. cette lassitude, ce dégoût. Comme il sentait bon le jasmin de son petit jardin d'Espagne, et les cheveux de cette femme sentaient la mort. Oh, elle n'était pas présente là-bas. Fantôme qui aptisait son désir. Elle était bien plus présente ici que présente ici. Ce qu'à son cou, comme un collier enfantin sur une vieille gorge, se plie. Et ces mots qu'elle disait pour expliquer sa gratitude, bêtement. « Assieds-toi, commanda-t-il.
« Oui, mon chéri, tu vois, je m'assieds. Tout ce que tu voudras, tu sais, tout ce que tu voudras.
L'annuaire de téléphone ? Mais toujours à sa place, dans le casier à gauche, là.
Tu veux téléphoner, mon trésor ?
Oh, je peux demander le numéro. » Il consulta l'annuaire, décrocha le récepteur et demanda « Gobelin 2260. »
C'est
le parquet du procureur de la République.
Robert, mais qu'est-ce que tu veux lui dire au procureur de la République ?
Bien que je suis vivant.
Oh, je t'en supplie, ça te pourrait te coûter cher.
Oui, peut-être quelques mois de prison.
Réfléchis, on s'en irait.
Allô, allô, Gobelin 2260. Pourrais-je parler ?
Oui, une communication urgente.
Bon, je suis Robert Pavillon.
Oui, Robert Pavillon.
Je me présenterai au palais de justice demain matin.
À midi, bon, j'y serai.
Il raccrocha l'appareil.
Robert, nous aurions pu partir, aller en Amérique.
Mande de coucher.
Tu me répondras ?
Non.
Tu vas passer la nuit ici ?
Oui. Il avait hâte de se délivrer d'elle.
J'irai avec toi au palais de justice, mon Robert. Nous nous présenterons tous les deux.
Il lui fit un signe. Elle s'éloigna. Seul, il respira largement. Il ouvrit les registres. La vente était normale, peut-être même légèrement meilleure. La curiosité, sans doute, avait attiré les clients. Et il caressait, comme on flatte une bête, les casiers de chêne, les bibelots familiers. Il revenait. Et après une année trop violente, son cœur s'en était éteint pour toujours. Il fit des comptes, puis il rangea des portefeuilles et des réticules qui traînaient. Et enfin, la tâche quotidienne accomplie, comme autrefois, se faisant tout petit, il s'assit à l'ombre du comptoir, là où il se cachait quand il était enfant et qu'il avait peur de la vie. Henri Duvernois.